Regardez en l'air les cerfs-volants qui nous accompagnent. Cette installation éphémère va nous guider pendant que nous nous aventurons rue de la République. Mais il y a aussi le petit cœur avec nous. En route. Je ne sais pas si vous savez, mais cette rue était l'un des axes les plus importants de la ville jusqu'à la fin du 19e siècle. Et toute l'aristocratie saint-chamonnaise y était installée. On voit d'ailleurs des hôtels particuliers de tous les côtés. Tenez, allons faire un tour au numéro 48. Le numéro 48 est l'hôtel particulier de Charles-François Richard Chambovet. Je vais vous raconter un petit bout de son histoire. Après une courte période dans l'armée en tant qu'officier d'infanterie de Bonaparte, Richard Chambovet travaille comme passe-montier de Padoue. Ce type de ruban est à l'époque principalement utilisé pour décorer les chaussures, border les jupes, attacher les tabliers ou les coiffes masculines. Dans un contexte où les hommes arborent de plus en plus les cheveux courts, l'activité de Richard Chambovet se porte au plus mal au début du 19e. En concurrence avec les industriels stéphanois, il fait faillite. Peu après, quasiment ruiné, Richard Chambovet découvre et achète à Paris un métier à lacets rudimentaires. Il s'agit du métier Perrault. En 1807, Richard Chambovet en rapporte 3 à Saint-Chamond et les améliore, et 5 ans plus tard, on en compte 82. Son épopée industrielle est alors lancée. Le développement rapide de ses métiers à tisser sur la ville permet à Saint-Chamond de devenir en une trentaine d'années la capitale mondiale des tresses et lacets. Son industrie fonctionne grâce à la mode des chaussures, des corsets ou des abat-jours. Il est le premier à installer une machine à vapeur et l'éclairage au gaz afin de maintenir la fabrication jour et nuit. L'industrie des tresses et lacets supplante l'industrie du ruban déjà présente dans la ville. Une avancée, certes, mais qui engendre des conditions de travail médiocres, avec presque 14 heures de travail quotidien et une main-d'œuvre essentiellement féminine qui logeait dans les dortoirs au-dessus de l'atelier. On parlait alors d'usine-couvent. Richard Chambovet entre au conseil municipal de Saint-Chamond en 1808, avant d'en devenir maire en 1827. Allez, on continue la rue de la République pour rejoindre la rue Ventefolle, sur la gauche. Cette histoire de travail jour et nuit me fait penser à une autre histoire. La broderie. C'est l'histoire d'une femme très pauvre qui habitait dans une misérable maison, au cœur d'un pays ingrat fait de collines arides, de terres pauvres et de landes. Elle n'avait plus que son fils, et elle l'aimait plus que tout au monde. Pour gagner leur vie, elle faisait des broderies qu'elle s'en allait vendre au marché. Et ainsi, jour après jour, elle brodait et prenait de l'âge. Et son fils grandissait sans même penser à l'aider et sans s'inquiéter du futur. Une nuit, elle fit un rêve. Et elle vit sa maison, ses terres, toutes transformées. Sa maisonnette était devenue un palais. Les collines qui l'entouraient étaient recouvertes de grands arbres et de forêts, les terres traversées par des rivières et des ruisseaux et plantées de champs de blé, d'avoine et d'une multitude de plantes dont elle ne connaissait pas le nom. Mais ce qui lui semblait le plus beau dans cette vision merveilleuse, c'était un lac. Et à la place des rocailles, en contrebas, devant le lac, se tenait son fils, resplendissant, habillé comme un prince. Quelqu'un d'autre se trouvait à ses côtés, mais le rêve n'en montrait rien. Tout cela lui parut si beau que dès le lendemain, au réveil, elle se mit à broder ce qu'elle avait vu. et elle désirait tant que sa broderie soit ressemblante, qu'elle n'eût de cesse qu'elle ne soit terminée. Elle s'y usa les mains, les reins et les yeux, et bientôt, elle termina la représentation de son rêve, hormis la personne qui était aux côtés de son fils. Elle montra son chef-d'œuvre à son fils. Mais un coup de vent violent le lui arracha des mains et l'emporta hors de sa vue. Son fils partit aussitôt pour tenter de rattraper la broderie. Mais chaque fois qu'il l'apercevait, le vent se levait et l'emportait un peu plus loin. Il courut ainsi pendant des jours et des jours, croyant toujours atteindre la broderie, mais elle lui échappait toujours. Il finit par arriver dans un pays qui lui parut tout aussi extraordinaire que celui qui figurait sur la broderie. Et dès qu'il y eut pénétré, trois jeunes femmes, c'était des fées, vinrent l'accueillir comme s'il était un prince. Elles lui en donnèrent les habits, lui offrirent gîte et couvert, et lui révélèrent qu'elles l'attendaient depuis longtemps pour terminer la broderie inachevée. Tandis que les deux aînés terminaient la broderie, la plus jeune se promenait avec le jeune homme au bord du lac qui était en contrebas. Et quand la broderie fut achevée et que le jeune homme put la contempler, il en fut tout émerveillé. Malgré la tristesse qu'il avait de quitter ce pays enchanté, il dit adieu à ses trois hôtesses pour apporter la broderie à sa mère. Elle était devenue aveugle. Aveugle d'avoir tant brodé et de l'avoir tant attendu, aveugle et presque mourante. Mais quand elle le sut revenu et qu'elle sut que son œuvre était enfin achevée, elle en eut un très grand bonheur. Elle caressa la broderie. Le vent qui la lui avait prise autrefois la lui reprit quelques instants et la broderie s'envola, mais elle ne s'en alla pas très loin. Le ciel qu'elle avait brodé remplaçait le ciel gris du méchant pays. Les collines boisées qu'elle avait brodées remplacèrent les collines desséchées. Les champs tout fleuris de moissons qu'elle avait brodés recouvrirent les terres ingrates d'autrefois. Le lac qu'elle avait brodé réfléchissait le paysage tout entier qui l'entourait. Et à côté de son fils, qui était maintenant habillé comme un prince, comme elle l'avait brodé, il y avait la jeune fée qui rayonnait comme une étoile. La vieille mère, désormais aveugle, revoyait ce qu'elle avait vu dans son rêve. C'était ce qu'elle avait brodé. Alors, enfin, elle put s'en aller en paix. J'adore ces histoires de fil et de broderie. Et nous voilà arrivés à l'angle de la rue Vente Folle. On va la prendre donc sur la gauche pour rejoindre la place Saint-Pierre où une surprise nous attend. La rue Vente Folle, vous savez qu'elle tient son nom du vent qui s'y engouffre. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on l'entend.